Chapitre 51. Une passion. Le jour même de son arrivée, en revenant du Palais-Royal, Athos, comme nous l'avons vu, rentra en son hôtel de la rue Saint-Honoré. Il y trouva le vicomte de Bragelonne, qui l'attendait dans sa chambre en faisant la conversation avec Grimaud. Ce n'était pas une chose aisée que de causer avec le vieux serviteur. Deux hommes seulement possédaient ce secret, Athos et D'Artagnan. Le premier y réussissait parce que Grimaud cherchait à le faire parler lui-même. D'Artagnan, au contraire, parce qu'il savait faire causer Grimaud. Raoul était occupé à se faire raconter le voyage d'Angleterre et Grimaud l'avait conté dans tous ses détails avec un certain nombre de gestes et 8 mots, ni plus ni moins. Il avait d'abord indiqué par un mouvement onduleux de la main que son maître et lui avaient traversé la mer. « Pour quelque expédition ?» avait demandé Raoul. Grimaud, baissant la tête, avait répondu « Oui. »« Où, monsieur le comte, courut des dangers ?» interrogea Raoul. Grimaud haussa légèrement les épaules comme pour dire « Ni trop, ni peu. »« Mais encore, quel danger ?» insista Raoul. Grimaud montra l'épée. Il montra le feu et un mousquet pendu au mur. « Monsieur le comte avait donc là-bas un ennemi ?» s'écria Raoul. « Monk !» répliqua Grimaud. « Il est étrange, » continua Raoul, « que monsieur le comte persiste à me regarder comme un novice et à ne pas me faire partager l'honneur ou le danger de ses rencontres. » Grimaud sourit. C'est à ce moment que revint Athos. L'hôte lui éclairait l'escalier, et Grimaud, reconnaissant le pas de son maître, courut à sa rencontre, ce qui coupa court à l'entretien. Mais Raoul était lancé. En voie d'interrogation, il ne s'arrêta pas, et prenant les 2 mains du comte avec une tendresse vive mais respectueuse, « Comment se fait-il, monsieur, dit-il, que vous partiez pour un voyage dangereux sans me dire adieu, sans me demander l'aide de mon épée, à moi qui doit être pour vous un soutien depuis que j'ai de la force, à moi que vous avez élevé comme un homme? Ah, monsieur, voulez-vous donc m'exposer à cette cruelle épreuve de ne plus vous revoir jamais? Qui vous a dit, Raoul, que mon voyage fut dangereux? Répliqua le comte en déposant son manteau et son chapeau dans les mains de Grimaud, qui venait de lui dégrafer l'épée. Moi, dit Grimaud. Et pourquoi cela? Fit sévèrement Athos. Grimaud s'embarrassait. Raoul le prévint en répondant pour lui. « Il est naturel, monsieur, que ce bon Grimaud me dise la vérité sur ce qui vous concerne. Par qui serez-vous aimé, soutenu, si ce n'est par moi ?» Athos ne répliqua point. Il fit un geste amical qui éloigna Grimaud, puis s'assit dans un fauteuil, tandis que Raoul demeurait debout devant lui. « Toujours est-il, continua Raoul, que votre voyage était une expédition et que le fer, le feu, vous ont menacé. « Ne parlons plus de cela, vicomte, dit doucement Athos. Je suis parti vite, c'est vrai, mais le service du roi Charles II exigeait ce prompt départ. Quant à votre inquiétude, je vous en remercie et je sais que je puis compter sur vous. Vous n'avez manqué de rien, vicomte, en mon absence ?» « Non, monsieur, merci. J'avais ordonné à Blaisois de vous faire compter 100 pistoles au premier besoin d'argent. Monsieur, je n'ai pas vu Blaisois. Vous vous êtes passé d'argent, alors. Monsieur, il me restait 30 pistoles de la vente des chevaux que je pris lors de ma dernière campagne, et monsieur le prince avait eu la bonté de me faire gagner 200 pistoles à son jeu il y a 3 mois. Vous jouez? Je n'aime pas cela, Raoul. « Je ne joue jamais, monsieur. C'est monsieur le prince qui m'a ordonné de tenir ses cartes à Chantilly, un soir qu'il était venu un courrier du roi. J'ai obéi. Le gain de la partie, monsieur le prince m'a commandé de le prendre. »« Est-ce que c'est une habitude de la maison, Raoul ?» dit Athos en fronçant le sourcil. « Oui, monsieur. Chaque semaine, monsieur le prince fait, sur une cause ou sur une autre, un avantage pareil à l'un de ses gentilshommes. Il y a 50 gentilshommes chez son Altesse, mon tour s'est rencontré cette fois. Bien. Vous allâtes donc en Espagne ?
Oui, monsieur, je fis un fort beau voyage et fort intéressant.
Voilà un mois que vous êtes revenu ?
Oui, monsieur.
Et depuis ce mois ?
Depuis ce mois,
qu'avez-vous fait ?
Mon service, monsieur.
Vous n'avez point été chez moi à l'affaire ?
Raoul rougit.
Athos le regarda de son œil fixe et tranquille.
Vous auriez tort de ne pas me croire, dit Raoul. Je rougis et je le sens bien. C'est malgré moi.
La question que vous me faites l'honneur de m'adresser est de nature à soulever en moi beaucoup d'émotions. Je rougis donc parce que je suis ému, non parce que je mens.
Je sais, Raoul, que vous ne mentez jamais.
Non, monsieur.
D'ailleurs, mon ami, vous auriez tort. Ce que je voulais vous dire...
Je le sais bien, monsieur. Vous voulez me demander si je n'ai pas été à Blois.
Précisément.
Je n'y suis pas allé. Je n'ai même pas aperçu la personne dont vous voulez me parler.
La voix de Raoul tremblait en prononçant ces paroles.
Athos, souverain juge en toute délicatesse, ajouta aussitôt.
Raoul, vous répondez avec un sentiment pénible. Vous souffrez.
Beaucoup, monsieur. Vous m'avez défendu d'aller à Blois et de revoir mademoiselle de la Vallière.
Ici, le jeune homme s'arrêta.
Ce doux nom, si charmant à prononcer, déchirait son cœur en caressant ses lèvres.
Et j'ai bien fait, se hâta de dire Athos. Je ne suis pas un père barbare ni injuste. Je respecte l'amour vrai. Mais je pense pour vous à un avenir, à un immense avenir. Un règne nouveau va luire comme une aurore. La guerre appelle le jeune roi plein d'esprit chevaleresque. Ce qu'il faut à cette ardeur héroïque, c'est un bataillon de lieutenants jeunes et libres qui courent au cou avec enthousiasme et tombent en criant « Vive le roi !» au lieu de crier « Adieu ma femme !» Vous comprenez cela, Raoul ? Tout brutal que paraisse être mon raisonnement, je vous adjure donc de me croire et de détourner vos regards de ces premiers jours de jeunesse où vous prîtes l'habitude d'aimer, jours de molle insouciance qui attendrissent le cœur et le rendent incapable de contenir ces fortes liqueurs amères qu'on appelle la gloire et l'adversité. Ainsi, Raoul, je vous le répète, voyez dans mon conseil le seul désir de vous être utile, la seule ambition de vous voir prospérer. Je vous crois capable de devenir un homme remarquable. Marchez seul, vous marcherez mieux et plus vite.
« Vous avez commandé, monsieur, répliqua Raoul. J'obéis. »«
Commandé ? » s'écria Athos. « Est-ce ainsi que vous me répondez ? Je vous ai commandé ? Oh, vous détournez mes paroles, comme vous méconnaissez mes intentions. Je n'ai pas commandé, j'ai prié. »
« Non pas, monsieur, vous avez commandé, » dit Raoul avec opiniâtreté.
« Mais n'eussiez-vous fait qu'une prière, votre prière est encore plus efficace qu'un ordre. Je n'ai pas revu mademoiselle de la Vallière. »
« Mais vous souffrez ? Vous souffrez ?» insista Athos.
Raoul ne répondit pas.
« Je vous trouve pâli, je vous trouve attristé.
Ce sentiment est donc bien fort ?»
« C'est une passion, » répliqua Raoul.
« Non, une habitude.
Monsieur, vous savez que j'ai voyagé beaucoup, que j'ai passé 2 ans loin d'elle. Toute habitude se peut rompre en 2 années, je crois. Eh bien, au retour, j'aimais, non pas davantage, c'est impossible, mais autant. Mademoiselle de la Vallière est pour moi la compagne par excellence. Mais vous êtes pour moi Dieu sur la terre. À vous, je sacrifierai tout.
Vous auriez tort, dit Athos. Je n'ai plus aucun droit sur vous. L'âge vous a émancipé. Vous n'avez plus même besoin de mon consentement. D'ailleurs, le consentement, je ne le refuserai pas, après tout ce que vous venez de me dire. Épousez mademoiselle de la Vallière si vous le voulez.
Raoul fit un mouvement, puis soudain,
« Vous êtes bon, monsieur, dit-il, et votre concession me pénètre de reconnaissance. Mais je n'accepterai pas. »
« Voilà que vous refusez à présent ?»«
Oui, monsieur. » Je ne vous en témoignerai rien, Raoul. Mais vous avez au fond du cœur une idée contre ce mariage. Vous ne l'avez pas choisi.
C'est vrai.
Il suffit pour que je ne persiste pas. J'attendrai.
Prenez-y garde, Raoul. Ce que vous dites est sérieux.
Je le sais bien, monsieur. J'attendrai, vous dis-je.
Quoi, que je meure ? Fit Athos très ému.
Oh, monsieur ! S'écria Raoul avec des larmes dans la voix. Est-il possible que vous me déchiriez le cœur ainsi, à moi qui ne vous ai pas donné un sujet de plainte ?
Cher enfant, c'est vrai, murmura Athos en serrant violemment ses lèvres pour comprimer l'émotion dont il n'allait plus être maître.
Non, je ne veux point vous affliger. Seulement, je ne comprends pas ce que vous attendrez.
Attendrez-vous que vous n'aimiez plus ?
Ah, pour cela non, monsieur. J'attendrai que vous changiez d'avis.
Je veux faire une épreuve, Raoul. Je veux voir si mademoiselle de la Vallière attendra comme vous.
Je l'espère, monsieur.
Mais prenez garde, Raoul, si elle n'attendait pas.
Ah, vous êtes si jeune, si confiant, si loyal.
Les femmes sont changeantes.
Vous ne m'avez jamais dit de mal des femmes, monsieur. Jamais vous n'avez eu à vous en plaindre. Pourquoi vous en plaindre à moi à propos de mademoiselle de la Vallière ?
C'est vrai, dit Athos en baissant les yeux. Jamais je ne vous ai dit de mal des femmes. Jamais je n'ai eu à me plaindre d'elles. Jamais mademoiselle de la Vallière n'a motivé un soupçon. Mais quand on prévoit, il faut aller jusqu'aux exceptions, jusqu'aux improbabilités. Si, disais-je, mademoiselle de la Vallière ne vous attendait pas.
Comment cela, monsieur ?
Si elle tournait ses vues de notre côté.
Ses regards sur un autre homme, voulez-vous dire ?
Dit Raoul, pâle d'angoisse.
C'est cela.
Eh bien, monsieur, je tuerai cet homme, dit simplement Raoul.
Et tous les hommes que mademoiselle de la Vallière choisirait, jusqu'à ce qu'un d'entre eux m'eût tué, ou jusqu'à ce que mademoiselle de la Vallière m'eût rendu son cœur.
Athos tressaillit.
Je croyais, reprit-il une voix sourde, que vous m'appeliez tout à l'heure votre Dieu, votre loi en ce monde.
Oh, dit Raoul tremblant, vous me défendriez le duel ?
Si je le défendais, Raoul.
Vous me défendriez d'espérer, monsieur, et par conséquent, vous ne me défendriez pas de mourir.
Athos leva les yeux sur le vicomte. Il avait prononcé ces mots avec une sombre inflexion qu'accompagnait le plus sombre regard.
Assez, dit Athos après un long silence, assez sur ce triste sujet où tous deux nous exagérons. Vivez au jour le jour, Raoul. Faites votre service, aimez mademoiselle de la Vallière. En un mot, agissez comme un homme, puisque vous avez l'âge d'homme. Seulement, n'oubliez pas que je vous aime tendrement et que vous prétendez m'aimer.
Ah, monsieur le comte ! S'écria Raoul en pressant la main d'Athos sur son cœur.
Bien, cher enfant, laissez-moi, j'ai besoin de repos.
À propos, monsieur d'Artagnan est revenu d'Angleterre avec moi. Vous lui devez une visite.
J'irai la lui rendre, monsieur, avec une bien grande joie. J'aime tant monsieur d'Artagnan.
Vous avez raison. C'est un honnête homme et un brave cavalier.
Qui vous aime ? Dit Raoul.
J'en suis sûr. Savez-vous son adresse ?
Mais au Louvre, au Palais Royal, partout où est le roi.
Ne commande-t-il pas les mousquetaires ?
Non. Pour le moment, M. d'Artagnan est en congé. Il se repose. Ne le cherchez donc pas au poste de son service. Vous aurez de ses nouvelles chez un certain M. Planchet.
Son ancien laquais ?
Précisément, devenu épicier.
Je sais, rue des Lombards.
Quelque chose comme cela, ou rue des Arcisses.
Je trouverai, monsieur, je trouverai.
Vous lui direz mille choses tendres de ma part et l'amènerai dîner avec moi avant mon départ pour l'affaire.
Oui, monsieur.
Bonsoir, Raoul.
« Monsieur, je vous vois un ordre que je ne vous connaissais pas. Recevez mes compliments. »«
La toison ? C'est vrai.
Au chais, mon fils, qui n'amuse même plus un vieil enfant comme moi. Bonsoir, Raoul.